Ces invitations représentent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kananga.
Bonsoir. Opération militaire conjointe au Nord Kivu dans la cité de Tinga, retour des FDLR sur fond d'exactions sur la population civile de cette cité abandonnée auparavant par des combattants hutu-rwandais face à l'avancée des forces de la coalition par des armées rwandaises. Comment expliquer le retour des FDLR dans cette cité? Comment éviter pareille situation dans la poursuite de ces opérations? C'est le sujet de cette émission. Vous êtes nombreux à réagir. Nous reviendrons sur vos messages avec nos invités dans ce débat. Il s'agit du ministre Lambert Mende, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central, Jacques Joly, sénateur, vice-président de la Commission Défense et Sécurité au Sénat, secrétaire national du MLC, chargé de la Défense, Sécurité et Décentralisation, et le Moami, entendez, chef coutumier Paul Ndézé de la chefferie de Bouisha au Nord Kivu et porte-parole de la délégation des Bami, chef coutumier du Nord Kivu et Sud Kivu, venu à Kinshasa rencontrer le chef de l'État. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Opération militaire conjointe en Nord Kivu, c'est le sujet principal de notre débat, bien sûr qui concerne la cité de Tinga. Mais avant d'ouvrir le débat, toujours dans la même province, cette information de l'ONG internationale Global Witness à l'endroit des sociétés de fabrication de téléphones portables, cette ONG demande aux firmes de ne plus utiliser les minerais provenant des zones de conflit à l'est de la RDC et qui rentrent dans la fabrication de leurs produits. Ces minerais, selon la même ONG, financent la guerre dans la partie est du pays. Cette ONG l'a dit dans un communiqué en marge du Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone. Global Witness plaide pour un contrôle du commerce de ces minerais tels le coltan qui finance le conflit armé en RDC. Karina Terzakian, elle est responsable du programme RDC chez Global Witness. Elle précise cette demande et les jointe depuis Londres, Paris, le capital.
Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des mesures pour vérifier que ce commerce ne profite pas aux groupes armés. Quand nous regardons l'ensemble de la situation dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, ce n'est pas la totalité de la production des minerais qui est contrôlée par ces groupes armés. Il y a une certaine proportion de ce commerce qui se fait de façon légitime et légale, je dirais. Donc, ce serait contre-productif, en fait, de bannir ce commerce dans son ensemble. Ce que nous demandons, par contre, ce sont des mesures précises ciblé précisément pour exclure de la chaîne d'approvisionnement ces minerais-là qui sont ou bien produits par des groupes armés tels que les FDLR, les CNDP ou même les FARDC ou qui passent entre les mains de ces groupes armés et servent donc à les financer. Mais ce n'est pas l'ensemble du commerce qui est affecté de cette manière.
Réaction de la Fédération des entreprises du Congo, section Nord Kivu, n'approuve pas la démarche de l'ONG Global Witness. Selon son président, contacté au téléphone par notre confrère Pierrot Elamelli, il est difficile de reconnaître les minerais qui proviennent des zones exploitées par les groupes armés. Désiré Segaungu estime que 80% des minerais exportés dans le Nord Kivu proviennent du territoire de Walikale, qui est sous contrôle gouvernemental. On aura l'occasion de l'écouter dans nos prochaines éditions. Mais puisque nous avons déjà dans ce studio M. Lambert Mende qui est au téléphone, bonsoir M. le ministre.
Bonsoir.
Et Jacques Joly, lui, il est au studio. Bonsoir, sénateur.
Bonsoir, Claude.
Voilà, un petit commentaire, parce que ce n'est pas le sujet principal de ce débat. Quel commentaire, M. le ministre, vous pouvez émettre sur cette demande de Global Witness?
Je voudrais d'abord, sur le principe, me féliciter de cette initiative de Global Witness. Je la trouve tout à fait positive dans la mesure où elle dénonce un lien causal direct entre ce commerce de minerais en provenance de l'Est et les atrocités perpétrées à l'encontre des civils congolais. Je voudrais que Global Witness aille jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire soutienne les efforts que le gouvernement développe et va vraiment déployer sur la scène internationale pour exiger des mesures de traçabilité. Elle l'a dit, mais maintenant il faut rentrer dans le concret. Et j'ai trouvé un peu léger sa citation des groupes armés. Elle parle des FARDC comme un groupe armé. J'aurais voulu qu'elle parle des éléments un contrôleur des FARDC que nous avons aussi sur notre collimateur. Nous voulons punir ces gens-là. Elle ne doit pas parler des FARDC, c'est notre armée gouvernementale et l'associée à des groupes armés. Il y a probablement des éléments indisciplinés dans les FARDC. Eux et nous, nous devons nous donner la main pour éradiquer ces gens-là, mais pas indexer notre force armée. Ça, je ne l'accepte pas.
Et donc, pour vous, les FARDC sont des saints.
Pardon?
Est-ce que vous voulez dire, M. le ministre, que les FARDC sont des saints?
J'ai dit qu'il y a des éléments indisciplinés dans les FARDC. Nous nous en occupons, nous les sanctionnons. Il y a des procès que nous organisons et nous souhaitons que Global Witness nous aide à dénoncer ces gens-là. Mais il ne faut pas parler de FARDC comme si c'est une politique du gouvernement congolais de piller ses propres ressources. Ça n'a même pas de sens.
Merci.
D'une part, elle nous soutient, puis d'autre part, elle dénonce une structure gouvernementale.
Merci beaucoup, M. le ministre. Un petit commentaire, Jacques Guéry.
Et tout à fait. Donc nous félicitons également parce que finalement, à travers cette déclaration de Global Witness, on démontre, n'est-ce pas, le lien entre le pillage de nos ressources et l'implication économique donc de ces conflits. Mais nous espérons que Monsieur le ministre, qui a finalement compris que le CNDP, qui est aujourd'hui l'allié des FARDC, et l'FDLR qui était hier ses alliés sont, n'est-ce pas, les éléments qui sont impliqués dans ces trafics. Au-delà de ces sigles FDLR, FARDC ou CNDP, il est d'abord un devoir de l'État congolais, du gouvernement, de maîtriser l'ensemble du territoire national, de restaurer son autorité, pas tellement en termes militaristes, mais en termes d'occupation et de gestion de l'espace, parce que tous ces minéraux, toutes ces fraudes, ça découle de la déclaration de Global Witness, on trouve au début et à la fin de la chaîne la responsabilité de l'État congolais, donc je voudrais dire du gouvernement, qui ne parvient pas à assurer son autorité depuis plus de 2 ans qu'il est là.
Voilà, monsieur, disons, j'avais dit le chef coutumier, le Moami Paul Ndézé, bonsoir. Ouais, peut-être vous allez vous approcher un peu du micro, puisqu'on vous, qu'on vous puisse vous entendre, oui. Donc, je ne sais pas, vous avez un petit commentaire à émettre par rapport à la demande de Global Witness, qui demande aux sociétés qui fabriquent les téléphones portables de ne plus s'approvisionner en minerais provenant de la partie est du pays, parce que selon cette ONG, ces minerais financent la guerre. Un petit commentaire.
Oui, c'est-à-dire le problème, ce n'est pas le problème des minéraux, c'est le problème d'hommes. Nous devons savoir avec qui le pays fait des transactions commerciales, qui entre au pays, qui vient faire quoi. C'est ce qui est important. Mmh. Effectivement, si nous devons laisser nos ressources naturelles à la portée de n'importe qui, malgré qu'il y a l'entrée des recettes, et qui par après nous déstabilise, ce n'est pas une bonne chose.
Ce n'est pas une bonne chose, Moamin Ndézé. On y reviendra, c'est un sujet qui va sûrement demander un autre débat dans nos prochaines éditions. Mais c'est parce que nous bouclons en fait ce premier dossier, et sans transition, nous passons à notre sujet principal, opération militaire conjointe au Nord Kivu, dans la cité de Pinga, retour des FDLR sur fond d'exactions sur la population civile de cette cité que les combattants rwandais ou tout-rwandais avaient déjà abandonné face à l'avancée des forces de la coalition FARDC armée rwandaise. Comment expliquer le retour des FDLR dans cette cité? Il faut dire que la situation sécuritaire reste tendue à Pinga, environ 200 km au nord-ouest de Goma. Les combattants FDLR qui avaient fui à l'arrivée des troupes de la coalition sont retournés dans la cité et du coup on enregistre des cas d'enlèvement et des tueries des civils qui sont accusés d'avoir collaboré avec les forces de la coalition. Au moins 5000 personnes et une dizaine de chefs de village menacés de mort sont en refuge au centre de la cité à côté d'une base mobile de la MONUC fuyant les représailles de l'FDLR. Le commandement des opérations conjointes à l'est du pays envisage un déploiement des troupes dès ce lundi à Pinga. Le point de la situation avec notre consoeur Sifa Maguru, elle revient de cette région.
Samedi dernier, en pleine journée, un chef de village a été capturé par les FDLR avant d'être abattu et son corps abandonné en pleine brousse à près de 2 km de la cité de Pinga. Ce drame a été aussitôt suivi d'un déplacement des populations de la cité vers la base de la MONUC tenue par les casquets bleus sud-africains. Selon un chef de village de la cité de Pinga, plusieurs cas de représailles des FDLR sont enregistrés dans les localités de Lukala, Mbuye, Ihembe, Kailenge et Katanga. Les civils sont menacés et systématiquement arrêtés par les FDLR qui les accusent d'avoir donné des informations sur leur trace aux troupes de la coalition. Ici, témoignage d'un chef de village.
Ces gens avec qui nous vivions pendant longtemps nous font souffrir aujourd'hui. Jusque-là, nous ne savons pas quoi faire. Mais quand la coalition est arrivée, ils ont fui. Mais maintenant, ils commencent à retourner dans nos villages. Ils menacent même de nous arrêter. Aujourd'hui, nous avons passé la nuit dans la forêt quand les FDLR sont arrivés.
Si certains habitants n'ont pas quitté Pinga, ils le doivent à la présence de la MONUC qui assure régulièrement des patrouilles de jour comme de nuit, a-t-on appris des mêmes habitants. Mais ils demandent toutefois que la base de la MONUC soit renforcée. Entre-temps, les déplacés qui sont installés près de la base de la MONUC ne peuvent plus accéder à leur champ. Par conséquent, ils vivent dans l'extrême pauvreté et l'aide humanitaire manque. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
J'en reviens vers vous, moi, Mindezé, parce que vous êtes porte-parole de la forte délégation des chefs coutumiers du Nord et du Sud Kivu. Vous venez donc du terrain. Comment vous réagissez justement à cette info qui nous vient de Pinga?
En fait, cette information, effectivement, m'a trouvé ça que je sens. Mais ce qui est arrivé, c'est parmi les préoccupations que nous avons présentées à l'autorité.
Vous voulez parler du président de la République?
Oui. En fait, les opérations, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait suffisamment de précautions pour protéger la population. De l'autre côté aussi, il faudra qu'il y ait une collaboration franche entre la force, les forces conjointes et la population. Et mais aussi, c'est comme si ce sont des opérations très rapides qui ne prennent pas suffisamment de temps pour nettoyer les différentes localités qui y racontent.
Voilà. Honorable, c'est le sénateur Jacques Thierry.
Oui, je crois que le chef coutumier a tracé un peu de manière concise l'ensemble des préoccupations que nous avons toujours soulevées sur cette opération. Beaucoup de gens ont cru que l'opposition était contre la paix. Mais nous avons dit que nous voulions comprendre le cadre politique de cet accord. Nous voulions comprendre si cet accord s'inscrit dans ce qu'on appelle la sécurité globale. Quelles sont les dispositions ou les aspects diplomatiques, les aspects politiques, les aspects humanitaires, les mesures de précaution pour protéger la population au regard de ce qui s'est passé dans le Haut-Ouéné, dans le cadre des opérations ougandaises. Donc, toutes ces mesures-là, tous ces éléments-là, tous ces paramètres, nous voulons qu'il y ait un débat national, pas pour qu'on nous donne un plan militaire des états-majors.
Ce qui est assez récent.
Oui. Mais qu'on nous dise quelles sont les mesures de communication, d'assurance, de protection de la population. On se rend compte aujourd'hui que la population, pour une opération qu'on peut discuter, est en train de souffrir. Il y a des refusés aujourd'hui, j'ai appris de manière pour autre, que plus ou moins 5000 Congolais sont en Ouganda qui fuient ces opérations.
Est-ce que, sénateur Jacques Zoli, vous voulez dire que parce qu'il n'y a pas eu ce débat national, c'est ainsi qu'on a des victimes dans la population civile, au Nord Kivu par exemple?
Nous ne pouvons que dire ça parce que l'opacité qui a entouré ces opérations, il y a un marchandage dont nous ne comprenons ni les tenants, ni les aboutissants. Et aujourd'hui, c'est la population congolaise, et vous avez suivi ces pauvres papas, il dit, nous vivons dans la peau. Donc, ils sont chassés parce que finalement, l'FDLR, on les a très peu touchés dans leur structure, dans leur organisation. Ils ont démonté leur structure, ils sont allés plus loin vers Walikale. Et que maintenant, comme cette opération est claire, qui devait faire 7 ou 15 jours pour arrêter ou 300, chacun donne ses chiffres, on ne sait finalement pas de quel est le concept opérationnel de cette action, de cette coopération rwando-congolaise. Donc, si pour se résumer, c'est quelles sont les mesures prises pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux sur notre population, comme on a connu et on continue à connaître dans le Haut-Ouéné, la pauvre population du Kivu va encore être soumise à des exactions, à des viols, des troupes qui les ont traumatisés. Et les évêques aujourd'hui l'ont encore dit. Donc voilà un peu des préoccupations. Ce n'est pas de l'animosité politique, mais tout simplement de l'amour de son pays.
Voilà. On y reviendra parce que la question est d'ailleurs prévue dans cette émission. Mais d'abord avec Monsieur le ministre Lambert Mende, comment vous réagissez lorsque vous suivez ce que vivent les populations civiles de Pinga?
Tout d'abord, il faut parler de faits. Mpinga n'est pas contrôlé par les rebelles. C'est une fausseté absolue. Au moment où nous parlons, je suis sûr que notre commandant qui est à Mpinga nous suit. Je suis sûr que les éléments de la MONUC qui collaborent avec notre brigade qui est à Mpinga nous suivent. Il n'y a pas de FDLR qui occupe Mpinga. Donc, il est important que vous donniez aux gens la situation précise.
Monsieur le ministre,
dans le commentaire.
Excusez-moi, monsieur le ministre.
Oui.
D'après nos informations aussi, les FDLR entrent et partent de Mpinga. En fait, ils sont tout au cours.
Il n'y a pas de FDLR qui soit entré ou parti de Mpinga depuis qu'ils en ont été chassés. Le déployage est terminé à Mpinga, nos troupes sont à Mpinga. Les FDLR rôdent, vous avez bien dit, c'est à 2 kilomètres de la cité de Mpinga qu'on a trouvé ce corps. Alors ne dites pas qu'on a tué quelqu'un à Mpinga quand c'est à 2 kilomètres de Mpinga. Donc à Mpinga, c'est les phares d'essai qui sont là. Il y a eu un incident dans une localité qui n'est pas Mpinga, qui est hors de Mpinga. Peut-être votre correspondant a eu cette information étant à Mpinga, mais ce n'est pas à Mpinga que ça s'est passé. Donc il faut donner les faits, parce que sinon nous parlons de choses que nous ne maîtrisons pas et nous nous intoxiquons nous-mêmes avec des informations qui ne sont pas correctes.
Mais est-ce que vous confirmez qu'il y a, vous avez fait la même information aussi à propos de 5000 personnes qui ont fui les villages de Mpinga pour venir se réfugier dans la cité?
Oui.
Au centre aussi de la cité.
Mpinga, c'est une cité.
Oui, mais au centre de la cité.
Et autour de Mpinga, il y a des villages, il y a des hameaux, et bien sûr, dans des situations comme celle-ci, la tendance pour la population, et c'est tout à fait naturel, c'est de se diriger vers là où il y a des secours humanitaires, vers là où il y a de la sécurité. Mais maintenant, nos troupes sont en pleine opération de nettoyage. Il y a un chef de village qui a été effectivement assassiné près de Mpinga, c'est une opération hit and run. Les gens sont venus, ont frappé et ont fui. Nous n'avons pas affaire à des enfants de cœur. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils que nous les pourchassons. C'est même quelque chose d'exceptionnel que nous n'ayons pas connu la situation que l'honorable sénateur déplore dans l'Ouélé, parce que nous avons cette opération depuis plus de 2 semaines. Et l'honorable parle au futur de ce qui pourrait arriver comme massacre contre les populations, c'est qu'au présent, il n'y a pas eu ces massacres. Il faut s'en féliciter. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps voir le côté seulement négatif. Hein. Vous savez, le verre d'eau, la partie qui est seulement vide, il y a aussi une partie pleine. L'opération a commencé il y a 2 semaines et on n'a pas enregistré de dégâts collatéraux comme nous le regrettons au niveau de l'Ouélé et où nous sommes en train d'arriver à la fin pratiquement de l'opération. Mais rappelons quand même que ce n'est pas depuis que nous avons déclenché ces opérations que la population est harcelée par ces bandits. C'est parce que ces bandits harcelaient nos populations que nous avons dû déclencher ces opérations. Donc le nettoyage est tout à fait en cours et ceux qui suivent de près ces opérations s'en félicitent. Et je cite la MONUC, hier encore, et je cite, même l'Église catholique, elle dit qu'on voit de bonnes perspectives, mais elle veut plus d'informations. Je cite encore le chef Koukoubier, dont le porte-parole participe avec nous à cette émission. Oui. Oh, je comprends que les parlementaires auraient voulu qu'ils soient informés, mais nous avons estimé que informés par les mécanismes normaux, les parlementaires, c'est-à-dire attendre la fin des vacances, ça aurait été donné du temps à des gens qui massacrent nos populations.
Oui, mais
même les informer hors vacances, ce serait informer nos cibles, les ennemis que nous voulons chasser.
Oui.
Il n'y a aucun gouvernement sérieux, aucune armée sérieuse qui ferait cela.
Oui.
Et c'est une jolie le sait qui maîtrise bien l'art de la guerre.
Oui. Monsieur le ministre, on a déjà fait beaucoup de débats sur pourquoi le Parlement n'était pas informé, mais ce soir, c'est beaucoup plus par rapport aux exactions, aux représailles dont sont victimes les populations, justement.
On a un chef de village qui est mort. Alors, ne dites pas dont sont victimes les populations. On a un chef de village, nous déplorons cette mort.
Oui.
On pourchasse ceux qui l'ont tué. Alors, il ne faut pas mettre de zéro après le chef de village qui a été tué. Nous serons de limiter. Si on ne faisait pas des efforts pour limiter, croyez-moi, en 2 semaines, on aurait eu plus qu'un mort.
Voilà. En plus de Mpinga, je vous informe, monsieur le ministre, parce que vous avez une autre information. Il y a le village de Kipopo et autres tout autour dans le groupement de Ofamandou, où les Maïmaï Kifouafoua disent avoir été témoins de l'enterrement d'une dizaine de civils victimes d'une attaque attribuée par des témoins au FDLR. Est-ce que, chef Mouamindézé, vous avez cette info, cette information?
Cette information, je l'ai lu ce matin dans les journaux. Mais dans tout ça, il peut y avoir eu des morts, il peut y avoir eu des déplacements de la population.
Est-ce que vous confirmez ces informations, qu'il y a eu des morts,
attendez.
Il y a des déplacements de milliers de personnes?
Attendez.
Oui.
Il peut y avoir eu des morts, il peut y avoir eu des déplacements de population. Mais ce qui est positif, c'est le fait que cela n'est pas ici d'une organisation de FDLR, mais plutôt des éléments de FDLR qui sont en débandade. Cela peut arriver. Mais aussi, il y a quelque chose quand même que nous déplorons, nous, de l'intérieur, de temps en temps. On livre des informations qui ne sont pas fouillées. Je suis sûr et certain.
Telle
que quand on parle de 5000 déplacés, l'information que je sais qu'on m'a parlé du chef coutumier qui est mort, le chef de localité, mais on m'a pas parlé de 5000 déplacés. C'est tellement qu'il y a eu des déplacés. Mais le nombre de 5000, je suis d'abord sûr qu'il n'y a personne qui les a comptés, mais on a toujours l'habitude de faire les silences.
On peut estimer.
Mais quand même, il y a une estimation qu'on peut évaluer, mais parler de 5000 pendant qu'il y en a 10, ça c'est quand même exagéré.
Est-ce que ça veut dire que vous minimisez les conséquences sur la population civile de ces opérations, qu'on ne veut pas grossir non plus, hein?
Pas du tout. Je ne minimise pas. Et c'est la raison pour laquelle, parmi nos préoccupations, nous avons demandé qu'on prenne des mesures pour protéger la population. Mais que voulez-vous? L'œuvre humaine a toujours ses faiblesses, a toujours ses lacunes. On ne peut pas réussir une opération à 100% des hommes. Il faut toujours qu'il y ait de la kill comme telle. Nous avons vu comment en Irak, quand on parlait de l'opération chirurgicale.
Vous allez intervenir, Jean-Claude. Oui, allez-y.
Nous devons nous attendre à de la kill à toute œuvre humaine. Et de telles situations, nous nous y attendions quand même, on s'attendait à ça.
Vous étiez déjà préparé. Oui. Et justement, puisque vous avez dit que vous êtes venu à Kinshasa rencontrer le chef de l'État à ce propos, qu'est-ce qui est sorti de votre rencontre avec le chef de l'État?
Oui, c'est-à-dire que nos préoccupations ont rencontré aussi la sienne. Il est tout à fait d'accord avec nous qu'il faut protéger la population dans toutes ces opérations-là. Mais comme je venais de vous le dire, quelle que soit la protection que le gouvernement peut mettre, les forces conjointes peuvent mettre, l'œuvre humaine reste toujours avec ses faiblesses.
Et concrètement, vous avez arrêté quoi avec le chef de l'État pour protéger les populations, concrètement?
Oui, d'abord nous l'avons dit que nous soutenons ces opérations, car quand même après 15 ans d'insécurité, il faut qu'on mette fin à cette insécurité, c'est ce qui est en train de se faire maintenant.
Oui.
Et nous lui avons dit aussi de prendre des précautions pour que la population ne puisse pas payer les frais de ces opérations. Je crois que c'est ce qui est en train de se faire, parce que ce qu'on enregistre comme dégâts, ce qu'on enregistre comme problème, c'est quand même minime par rapport à ce qu'on enregistrait avant même ces opérations.
Donc, vous voulez dire que les exactions que subissent les populations aujourd'hui...
Ce n'est pas bon.
C'est pas bon et vous dites que c'est moindre par rapport à ce que la population subissait avant.
Oui.
Jacques Jolet.
D'abord, je voudrais dire que je comprends bien Monsieur le ministre, mais très souvent, ce qu'il dit, très souvent contredit par la réalité, et il est très souvent en train de faire des démentis, comme maintenant. Il nous avait dit, lui, que c'était une opération de monitoring des officiers de renseignement. Mais très rapidement, on a évolué vers des opérations conjointes armées avec des troupes dont le nombre avoisine de 5 à 6 000. On dirait encore que nous exagérons, mais si nous exagérons, c'est tout simplement parce que cette opération est entourée d'une opacité. Deuxièmement, on dit qu'il y a un seul mort. Mais vous l'avez dit, heureusement, qu'à Oufamando, il y a eu plus de 100 civils massacrés par la FDLR. Et une organisation comme Oumatouat Watch n'est pas là pour donner des chiffres, tout simplement pour alarmer le gouvernement et demander des démentis. Je comprends le Moami. Bien sûr qu'il est invité du gouvernement, et c'est très gentil de sa part. Mais il doit savoir que même s'il y a un seul mort, lui, en tant que chef coutumier, doit veiller. Nous sommes tous d'accord pour que l'FDLR parte. Et nous sommes d'accord qu'il y ait des opérations. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est que ça se passe dans la clarté et que des mesures préventives, on ne doit pas prendre des mesures post-opérationnelles. C'est lorsqu'on engage l'opération qu'il faut prendre, n'est-ce pas, des mesures pour éviter, n'est-ce pas, des dégâts collatéraux. C'est bien de parler de l'Irak. Mais l'Irak, ces dégâts collatéraux sont sanctionnés, sont documentés. Par ailleurs, il dit qu'il n'y a pas 5000 déplacés. Je suis vu les représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et il n'est pas là pour donner un jeu. Mais le seul coutumier, c'est par exemple qu'à Calais, puisqu'il est du Kivu, il y a au moins 500 déplacés. À Ramba, nous avons 1000 déplacés. à Tsofi, 1000 déplacés. Il y a le mouvement de population du côté de Noalikale. Quelle opération aussi saine peut-elle être organisée et qui n'aurait pas de zéro mort? On est alors dans une opération chirurgicale américaine. Même là, il n'y a pas eu de guerre à zéro mort.
Monsieur le ministre Lambert Mende.
Oui, mais la question qu'on peut poser à l'honorable sénateur, c'est de savoir si c'est déplacé suit les forces de la coalition ou les FDLR, de sorte qu'ils ne sauraient pas nous reprocher, nous, de pourchasser justement les FDLR qui font fuir nos populations. Alors, on parle de, nous disons, un mort, le sénateur se réfère à Human Rights Watch, je ne sais pas pourquoi. J'aurais aimé que les parlementaires aient leurs sources. Pourquoi toujours attendre que les étrangers viennent nous balancer des chiffres pour des raisons que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes? Et là, je pense que le sénateur n'a pas tout à fait raison, parce que malheureusement, Human Rights Watch a été démenti et de façon cinglante par la MONUC. La MONUC a pu prouver, je crois que la communication, si elle n'est pas sortie, sortira très bientôt, que toutes les victimes collatérales que Human Rights Watch a dénoncées, bien sûr qu'elle les a attribuées pour faire bien au FDLR, mais en disant que c'est depuis que nous avons commencé ces opérations que les FDLR ont commencé à tuer, comme si nous on avait un contrat avec les FDLR pour tuer nos populations. Mais la MONUC nous a fait savoir que toutes ces victimes ont été par elle enregistrées avant le démarrage des opérations. Pourquoi est-ce que Human Rights Watch prend un rapport qui a été constitué avant le démarrage des opérations et avance les dates pour faire croire que c'est arrivé après? Je crois que le sénateur peut, avec moi, réfléchir aux raisons qui poussent cette ONG à faire cela, à se livrer à cet exercice malsain. Au lieu de prendre seulement des chiffres de Human Rights Watch et de les balancer parce que nous sommes opposés par ailleurs. Ici, ce n'est pas un problème qui peut nous opposer.
Oui.
C'est un problème de la vie et de mort pour nos concitoyens. On ne peut pas permettre à des ONG étrangères de venir se livrer à cette manipulation d'une comptabilité macabre. Donc, je peux rassurer le sénateur, 100 morts ont été enregistrés, mais avant que l'opération ne se déclenche, et c'est quelqu'un de Human Rights Watch qui a essayé de l'attribuer à après l'opération, et la MONUC a bien saisi ça et a dénoncé. Donc, il ne faut plus nous parler de ces 100 morts. Et en ce qui concerne nos Famando, nous attendons la confirmation. C'est des groupes Maïmaï qui sont eux-mêmes des groupes armés qui disent cela. Vous savez que tous les groupes armés, nous les mettons sur la même pied d'égalité, nous les pourchassons. Quiconque est en armes, qu'il soit congolais ou étranger, sera désarmé.
Oui.
Et donc, je ne pense pas que ce soit la source la plus crédible pour l'instant.
Voilà. Nous avons des réactions de nos auditeurs qui nous arrivent. Il y a Ignace Upio qui vient de nous écrire de Kananga au Kasai occidental. Le fait que le gouvernement congolais ait autorisé les opérations conjointes des forces armées congolo-rwandaises sans prendre des précautions pour la protection de la population montre insuffisance, c'est lui qui le dit, la légèreté, le manque de vision globale qui caractérise cette coalition. Abdou Makassi nous écrit depuis Kisangani, il estime que le retour des FDLR dans ce village, il veut parler de Pinga, prouve à suffisance que toute la partie est du pays n'est pas encore bien sécurisée. Comment peut-on laisser cette population sans protection après ces opérations conjointes? N'est-ce pas là une mauvaise stratégie? Ça, c'est la question que se pose Innocent Gouchimana de Kikwit au Bandundu. Un petit mot, monsieur le ministre, très rapidement avant de donner la parole aussi aux autres invités.
D'abord, légèreté, manque de vision globale du gouvernement. Je voudrais que les populations du Kivu qui retrouvent leur village maintenant apprécient cela. Si c'est vraiment faire preuve de légèreté, c'est de mettre fin à une insécurité qui dure 15 ans, alors je ne sais pas quelle définition on donne à ce terme. Quant au retour des FDLR à Pinga, que déplore l'autre interlocuteur, je tiens à rappeler que les FDLR ne sont pas à Pinga. C'est une fausse information, il ne faut pas qu'on puisse disserter à partir d'une fausse prémisse. C'est le FARDC et la MONUC qui sont à Pinga. Donc il faut qu'on s'intoxiquer avec de fausses nouvelles.
Alors, Mouami Ndézé, Paul, je rappelle que vous êtes le chef coutumier de Bouicha au Nord Kivu et vous êtes porte-parole de la délégation des chefs coutumiers, les Bami, comme on les appelle, du Nord et Sud Kivu, venus à Kinshasa. Mais s'il n'y a pas beaucoup de problèmes, s'il n'y a pas beaucoup de dégâts collatéraux, comme on dit, sur la population civile, mais finalement, pourquoi vous avez demandé au chef de l'État d'assurer la protection des civils?
Non, justement, nous avons demandé au chef de l'État d'assurer la protection des civils.
Pourquoi s'il n'y a pas de dégâts parmi cette population?
Parce que comme ce que je venais de vous dire, dans de telles opérations, les dérapages ne manquent pas, les effets collatéraux, comme vous le dites, ne manquent pas, donc il faut prendre des précautions. Comme ce que je vous ai dit, dans toute œuvre humaine, il faut vous attendre à des effets qui ne sont pas toujours bons. Donc il faut toujours prendre des précautions pour les effets ne pas ce qui peut arriver par après.
Opération militaire conjointe au nord Kivu, dans la cité de Pinga, retour des FDLR sur fond d'exactions sur la population civile de cette cité que des combattants hutu-rwandais avaient déjà abandonné face à l'avancée des forces de la coalition FARDC armée rwandaise. Comment éviter pareille situation dans la poursuite de ces opérations? Ne quittez pas, on en parle juste après sur un de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Je m'en vais tout de suite vous reposer la question, monsieur le ministre Lambert Mende, vous qui êtes ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement central, ministre de la communication et des médias. Alors, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement central pour sécuriser la population, parce que les opérations se poursuivent?
La première disposition prise par le gouvernement, c'est cette préférence qui a été accordée à un désarmement volontaire, et qui a marché pour au moins 2000 combattants hutu-rwandais qui se sont rendus. Il y a bien sûr un noyau dur, nous n'avons pas le choix, ils doivent être désarmés parce qu'ils ont déjà suffisamment assassiné la population. Si nous ne voulions pas protéger la population, nous ne pouvions pas privilégier cette option de désarmement volontaire, qui reste toujours notre préférence. Deuxième mesure, c'est l'implication de la MONUC qui est de loin mieux outillée, mieux équipée pour nous assister pendant que les troupes font leur travail à cet aspect humanitaire et même nous aider avec la surveillance des comportements sur le terrain. La MONUC, vous savez, à un moment a regimbé, puis Dieu merci, elle est venue rejoindre le mouvement. Nous en sommes heureux et nous saluons ces bonnes dispositions de la MONUC. C'est donc la deuxième, le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'implantation des unités militaires. Par exemple, en Pinga. Dès qu'on a libéré Pinga, les troupes ont été installées, elles y sont. Et pour l'instant, il faut déployer les troupes dans toutes les localités qui sont autour. C'est le travail qui est en train d'être fait par le commandement de l'opération conjointe, de même que les unités de la police nationale qui vont s'installer. Donc ce sont des mesures graduelles qui ne peuvent peut-être pas porter de résultats à 100% dès le premier jour, mais qui, de toute façon, vont ramener beaucoup plus de calme au fur et à mesure que ces mesures sont déployées.
Merci. Chef Mwami Ndézé, vous pensez que les mesures que annonce le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, peuvent vous rassurer, parce qu'on a quand même suivi dans cette émission le reportage de notre consoeur qui est allé sur place. Il y a un chef coutumier qui a dit qu'il y a une dizaine de vos collègues qui sont sous menace de mort de la part des FDLR. Vous pensez que ces mesures vous rassurent?
Oui, ces mesures nous rassurent, mais à ces mesures, il faut ajouter.
Faut ajouter quoi?
La collaboration de la population. Par exemple, ce qui est arrivé en Pinga, et si la population avait bien collaboré avec les forces en place, ça ne serait pas arrivé. Parce qu'après le passage des troupes de la coalition, certainement la population sait où se cachent les FDLR. Ils ont encore la crainte de dénoncer pour dire qu'ils sont à l'endroit. Je pense qu'il faut qu'ils aient le courage de dénoncer, de donner leur position. Mais aussi, il ne faut pas que l'opération soit rapide comme elle est claire. Il faut qu'à l'arrivée dans chaque localité, ils mettent quand même un temps suffisant pour bien faire le nettoyage. Je pense que c'est important.
Vous voulez dire que l'opération, elle passe trop vite, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement. Il faut qu'ils prennent suffisamment de temps dans chaque localité. Quand ils arrivent là-bas, il faut le nettoyage complètement avant d'évoluer. Parce qu'on n'aura jamais les militaires à positionner dans chaque localité. On ne les trouvera jamais.
Mais, chef, est-ce que finalement, ce n'est pas la cohabitation? Parce qu'on sait que pendant longtemps, les FDLR ont cohabité avec des populations, des Congolais, au niveau de Rutshuru par exemple. Est-ce que cette cohabitation n'est pas un obstacle aujourd'hui à l'avancée ou à la poursuite de cette opération conjointe?
C'est-à-dire qu'ils ont été forcés à cette cohabitation. Ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas de choix parce qu'ils n'avaient pas de force. Donc leur protection, c'était seulement d'accepter cette coopération, d'accepter cette cohabitation. Et même, je sais qu'il y a eu un contrat de mariage.
Vous voulez dire que c'était des mariages forcés?
Bon, c'était une façon de trouver la sécurité parce qu'on n'avait pas la protection à ce moment-là.
C'est une dernière question. Vous pensez que les populations locales sont prêtes à se désolidariser de ces SDLR?
Oui, en tout cas, les populations sont prêtes.
Jacques Tony. Oui, je crois que tout a été dit. Le problème de cette opération, c'est que c'est une opération qui, à mon avis, n'a pas été bien planifiée. Bien planifié, d'abord, dans le rapport de la MONUC.
Oui.
Je suis content que le ministre dise que la MONUC a le retard régimbé.
Non, c'est-à-dire que
la MONUC n'a pas été associée. Il faudra qu'on dise la vérité. Oui. C'est la MONUC qui a dénoncé son non-implication et d'une opération montée dans la clandestinité par l'état-major rwandais et l'état-major congolais. Deuxièmement, la non-implication de la population. Vous savez que nos opérations militaires aujourd'hui ne peuvent avoir d'effet que si il y a ce qu'on appelle des actions civilo-militaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir la confiance de la population. Comment pouvait réagir une population qui, subitement, voit des troupes rwandaises qui étaient les auteurs, n'est-ce pas, de leur traumatisme revenir sans qu'elles puissent être préparées?
Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu un travail de sensibilisation en amont?
Non, il y a pas de travail de sensibilisation en amont, et même lors des opérations, on n'explique pas à la population, et nous aussi, nous ne comprenons pas quel est le concept opérationnel. Est-ce qu'on cherche des FDLR? Est-ce qu'on veut détruire les FDLR? Puisque finalement, sur le plan strictement militaire, les FDLR ont démonté leurs installations, leurs structures, et ils sont rentrés.
Ils les ont démontés ou bien elles ont été détruites?
En termes de destruction, même l'état-major du ministre de la Défense, qui lui au moins a accepté d'aller rendre compte à leur Parlement, a dit qu'ils n'ont pas attrapé plus de 87, n'est-ce pas, FDLR, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que les 6500 FDLR ont pénétré beaucoup plus dans notre territoire et on les retrouve maintenant avec le major Luc vers Opiengé, au-delà de Walikale, où ils se sont, n'est-ce pas, consolidés. Et à partir de ce moment, quelle attitude on va faire? Parce que l'objectif de l'extérieur, c'est d'attirer les troupes rwandaises à l'intérieur du territoire et provoquer les affrontements là-dessus. Or, les opérations des troupes conjointes, c'est de faire des opérations rapides de passage et finalement, c'est la population congolaise qui subit, n'est-ce pas, le représailles des FDLR, qui restent des troupes qui opèrent de manière mobile, avec des petites unités de type guérilla. Donc finalement, nous risquons sur le plan militaire d'aboutir à la même conclusion que nous avons, n'est-ce pas, dans l'Otuélé, où on a tiré, on a bombardé, et ce sont les Congolais qui ont payé, et que finalement, les troupes guérilla, comme celles de FDLR, continueront, n'est-ce pas, à opérer tranquillement dans notre pays.
En résumé, très rapidement, qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement?
En résumé, le fait de recourir aux troupes étrangères pour régler ces problèmes n'est pas la solution. La vraie solution, c'est de mettre en place la réforme de notre armée nationale qui doit devenir professionnelle, républicaine et efficace pour faire le travail. Donc, faire appel aux troupes étrangères pour régler des problèmes sur son territoire, c'est un aveu d'incapacité de gestion.
On va revenir parce que je sais que M. le ministre Lambert Mende va vouloir répondre, mais on prend d'abord les réactions des auditeurs avec Aurélie Moupapa. Bonsoir.
Bonsoir. Norbert Saliboko à Beni au Nord Kivu pense que l'armée républicaine doit d'abord protéger la population et leurs biens lors de ces opérations, car dit-on, où les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Pour Romoza Mweji de Goma, si c'est la partie congolaise qui dirige la coalition militaire congolo-rwandaise, pourquoi n'a-t-elle pas prévu ces incidents, s'interroge-t-il. Et enfin, Malonga Koubali au Bandundu estime que le gouvernement doit chercher un moyen de se rapprocher de ces réfugiés armés pour bien protéger sa population.
Merci beaucoup Aurélie, mon pépé. Voilà, je suis tombé, c'est pas mon pépé, c'est mon papa. C'est Claude Casa qui l'avait dit et je répète la même erreur. Je me suis, c'est Aurélie, mon papa. Je reviens à vous, monsieur le ministre Lambert Mende. Vous allez sûrement répondre, bien sûr, aux auditeurs, mais aussi, je pense, à Jacques Joly, au sénateur.
Oui, je voudrais dire aux auditeurs que le gouvernement est tout à fait conscient que son premier devoir, c'est de protéger la population congolaise et les rassurer que toute l'opération qui est en train d'être conduite aujourd'hui, c'est pour protéger la population congolaise qui est menacée par les Interahamwe depuis 15 ans. Et le sénateur parle du traumatisme. On voit les soldats rwandais, on est traumatisés. Mais le FDLR, c'est aussi des soldats rwandais qui ont traumatisé notre population. Et tant qu'à faire, nous aimerions avoir peut-être affaire à une armée régulière que nous pouvons bouter hors du territoire par une simple signature, que des gens qui vont là où ils veulent, qui sont des électrons libres, sur lesquels aucune pression institutionnelle n'est possible. Alors, on dit qu'on n'a pas tué plus de 87 personnes et que c'est le signe de je ne sais quel échec. Nous n'avons pas déclenché cette opération au mode j'avais tout pour tuer les FDLR, hein, c'est pour les désarmer. C'est une opération de police, c'est une opération de désarmement. Donc, juger l'opération au nombre de morts, bon, je dirais qu'aux 87, se sont ajoutés les 40 autres qui ont été tués par l'action des FRDC sur Kachemire. Mais là n'est pas notre objectif.
Ça fait ça.
Alors, s'agissant d'Opiengé, je voudrais vraiment démentir l'honorable sénateur, il n'y a pas d'interamour de FDLR à Opiengé, ce sont des maïmaï congolais qui sont à Opiengé, et la police est en train de s'en occuper, on ne peut pas mélanger les gens. Ça fait des années que nous avons ces maïmaï qui sont à Opiengé, ils ont même un représentant au gouvernement, nous sommes en train de les désarmer, alors il ne faut pas faire croire aux gens, à vos compatriotes, que la guerre est déjà à Opiengé. Ça, c'est une situation tout à fait interne que nous sommes en train de résoudre et qui n'a rien à voir avec la guerre que nous faisons à ces FDLR rwandais qui ont sanctuarisé notre territoire.
Vous avez peut-être un mot à dire, moi, mes fonds de
ceci. Avant ces opérations, il y en a eu d'autres. Il y a eu les opérations avec les FARDC, il y a eu les opérations avec la Monique, et avec, après avoir informé toutes les institutions, mais les résultats étaient négatifs. Mais là, je pense que pour le moment, ce qui s'est passé, parce qu'il voit que le prix d'achoppement, ce n'est pas le fait que beaucoup d'institutions n'ont pas été mises au courant. Moi, je pense que c'est une stratégie militaire, et ce qui est important, c'est les résultats.
Même si au Rwanda, quand même, le gouvernement informe le Parlement, hein, dans la vie.
Oui, pendant ces opérations, je crois que l'information est arrivée aussi après.
Ils ont informé quand même.
Oui, mais l'information est arrivée après, je suis sûr que même... après la rentrée parlementaire, je suis sûr qu'ils seront informés.
Oui, puisque Mohamed Paul, chef coutumier, hein, on doit s'habituer à cette appellation de Mohamed, puisque vous avez encore la parole, là vous parlez en tant que porte-parole de ces chefs coutumiers du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu, est-ce que vous pensez que pour les chefs coutumiers du Sud Kivu, l'opération doit se poursuivre dans cette province?
En fait, ça ne sert à rien de nettoyer le Nord Kivu et laisser le voisin Sud Kivu occupé par les FDLR. Moi, je pense qu'il serait mieux, et c'est notre demande, pour que cette opération puisse arriver partout où il y a les FDLR. Mais comme aussi le sénateur, comme aussi le ministre l'a dit, il ne faut pas que les gens pensent qu'on fait l'opération pour tuer les FDLR. C'est accompagné par la sensibilisation.
Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de sensibilisation au Malinguez?
Mais en ce qui concerne, par exemple, les chefs coutumiers, la sensibilisation a commencé depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, au moins chaque semaine, il y a des rapatriements des HCR, des réfugiés rwandais qui rentrent au Rwanda. Mmh. La sensibilisation, nous la faisons et nous continuons à la faire.
Mmh. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'on poursuive avec la force ou bien qu'on mette quand même un accent particulier sur la sensibilisation?
D'abord, c'est la force persuasive. Mmh. Et la force, on ne l'applique qu'à ceux qui veulent résister à l'opération.
Mmh.
Et d'ailleurs, nous disons, les FDLR qui sont prêts à déposer les armes, à venir vers nous, en tout cas, nous allons leur faciliter de rentrer au Rwanda. Et là-bas, ils vont remplir les formalités. S'ils veulent venir au Congo, ils reviendront, nous allons les accueillir.
Même s'il faut dire que vous ne parlez pas tous le même langage. Il y a des chefs coutumiers qui sont ensuite que vous, qui disent qu'ils ne sont pas engagés par ce que vous venez faire et tout ça.
Non, c'est une chose, je ne sais pas qu'il n'y a pas suffisamment de concertation entre les chefs coutumiers du site Kivu, mais au Nord Kivu, il y a suffisamment de concertation.
Voilà, un dernier mot, petit mot à vous. Monsieur le ministre, en quelques 5 secondes, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission, en 5 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Ce que je peux dire, c'est que nous faisons cette opération dans l'intérêt des populations. Le gouvernement n'a pas intérêt à aller tuer des militaires congolais pour s'amuser. c'est pour protéger nos populations, et c'est parce qu'ils menacent nos populations que nous devons les désarmer. Il ne faut pas faire croire, ce serait du révisionnisme pur, c'est de faire croire que c'est parce qu'on les désarme qu'ils tuent nos populations. Ça fait 15 ans qu'ils tuent nos populations, il faut arrêter ça, nous avons décidé de le faire, et je pense que ça va se faire.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, merci sénateur Jacques Joly, et moi, ministre Paul Ndézé, merci à tous de nous avoir suivis, c'est Sylvain Matundu qui était à la technique et Guy Maté à la réalisation.
Vous êtes à Radio Capi les 20h à Kinshasa, nord de plus dans la cité de Mpinga, c'est au Nord Kivu.